pour les Sécures, épisode spécial Sécures. Je suis avec Olivier. Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Très bien aussi. On va faire le retour de ta conférence que tu as faite au Sécures. Pour ceux qui l'ont vu, ben, ou qui ne l'ont pas vu plutôt, ben, tant pis pour vous autres, vous avez juste à être là. Parce qu'on ne reviendra pas vraiment sur le sujet en tant que tel, fait que les références vont se faire par rapport à ce qui s'est parlé sans nécessairement qu'on revienne sur ça. Tu as abordé les infro-stealers, qui est un sujet très intéressant. Puis ce que tu me parlais en hors onde, c'est dans le fond, qu'est-ce que t'as amené vers cette recherche-là? Parce que, comme tu mentionnais, à part les credentials, qui est l'élément le plus populaire, puis c'est un peu ce que tu faisais dans ton ancienne vie d'ailleurs, t'as amené ailleurs, puis je vais te laisser commencer avec ça.
OK. Ben, je peux quand même faire un petit survol de la présentation. Dans le fond, le logiciel malveillant, tu sais, il y a plusieurs formes. Puis une des où je travaille maintenant, un des trucs qu'on a qui est le résultat d'une infection par un logiciel malveillant, c'est on appelle ça les Stealer Logs. Dans le fond, c'est le résultat des Information Stealer Malware. Puis là, quand je dis on appelle ça de même, c'est pas vrai. C'est les cybercriminels qui appellent ça de même. Tu sais, on utilise carrément leur jargon parce que il n'y a pas d'ambiguïté dans ce temps-là. Mais donc, les Stealer Logs, c'est le résultat d'une infection d'un logiciel malveillant de ce type-là. Puis c'est quoi? Dans le fond, c'est une photo ou en fait une extraction de tous les artefacts intéressants liés de plus ou moins aux credentials d'un poste. Donc, puis il y a des gens qui disent qu'il y en a du mobile, là, mais j'ai pas vu encore. Puis tu sais, à cause de la façon que les permissions sont segmentées, ça va être très limité comme accès comparé à ce qu'il y a sur les postes de travail. Mais donc, le malware accède les voûtes de mots de passe des navigateurs. Il va même couvrir plusieurs navigateurs, plusieurs profils. Donc, des fois, dans une infection, tu peux trouver jusqu'à 16 ou peut-être plus profils de navigateurs là-dedans. Tout ce qui est les mots me viennent en anglais, là, mais le autofill, dans le fond, fait que donc l'espèce de boîte que Chrome ou que ton navigateur se souvient de l'adresse que tu as tapé ou de quelque chose qui n'est pas censé être sensible va être volé dans cette affaire-là. Les noms d'utilisateurs, mots de passe vont être volés dans cette affaire-là. Ensuite de ça, tu as une description de l'ordinateur. Donc, mec de RAM, gig de RAM, système d'exploitation, time zone, langue, clavier, logiciel installé, process qui roule. Ensuite de ça, tu vas avoir des fichiers intéressants volés. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est zippé, puis envoyé souvent directement dans un channel Telegram privé. Avec donc un bot token, ce que ça fait, c'est que c'est plus dur de take down l'infrastructure, puis c'est plus dur aussi pour les réseaux de bloquer Telegram parce que c'est un logiciel légitime qui est souvent utilisé. Donc, quand l'infection se fait, l'upload est fait de façon réussie sur ces endroits-là. Donc, ce zip-là, le résultat de l'infection, c'est ce qu'on appelle le Stealer Log. Puis moi, dans le fond, mon employeur, Flare, ils ont accès à énormément de quantités de ça. On parle de genre plus de 60 millions. Là, donc, on en a énormément. Ce qui permet de faire des... Ah oui, il y a aussi un autre truc intéressant. Il y a un screenshot du desktop qui est pris au moment de l'infection ou un peu après. C'est la personne qui build le malware qui décide. Mais donc, le screenshot révèle énormément aussi de choses sur la victime, tu sais, qu'est-ce qu'il y a sur son desktop, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc, on a...
Mais un ou plusieurs screenshots, il en prend-tu à intervalles réguliers ou il en prend juste quand il fait son snapshot du poste puis il envoie?
Un screenshot. Tu sais, là, il y a plein de malware différents, là, mais tu sais... Moi, je dois en avoir regardé des milliers de Stealer Log, là, puis à date, c'est tout le temps un screenshot. Puis des fois, il a l'air d'avoir un petit délai parce que la personne est comme dans un logiciel full screen de synthétiseur, mettons. Fait que là, tu te dis, ça se peut pas que l'infection a eu lieu maintenant. Ça, je te parle de fait vécu, encore une fois, j'ai vu ça. Mais des fois, tu as carrément l'antivirus d'en face. Là, fait que tu vois que la personne, c'est vraiment au moment où elle s'est infectée.
Ouais, c'est ça, où elle a désactivé l'antivirus pour activer essentiellement le code qui est fait. Autre chose, puis je pense que tu l'avais parlé pendant la conférence, mais juste pour qu'on parle des mêmes choses, ça joue toujours dans le périmètre des accès de l'utilisateur. Puis ça, c'est vraiment un changement majeur où avant, il cherchait beaucoup à faire des mouvements latéraux, donc de voler l'entreprise ou d'aller plus loin. Maintenant, on est plus en « on vole l'utilisateur », donc on fait juste aspirer tout ce que l'utilisateur. Puis il y a des variabilités là, aussi par rapport à ce qui est aspiré. Là.
Mm-hmm. Non, mais tout à fait, c'est ça. Fait que donc, tout ce qui est directement sur le poste, on n'essaie pas de sortir du poste. On ramasse tout, pas besoin d'être administrateur. Quoique si on est administrateur, il y a des choses de plus qui sont possibles. Puis généralement, le malware va le détecter puis agir en conséquence selon son niveau de permission. Puis dans la majorité des cas, on clean, on disparaît. Donc, on envoie le zip sur Telegram, on s'auto-delete, puis on n'est plus là. Fait que si quelqu'un d'autre arrive après et fait un scan, on ne sait pas qu'il y a eu une infection par Stealer Log. Donc, on est vraiment dans un autre genre d'époque de logiciel malveillant ou de façon de faire, mettons. Puis là, ça fait longtemps moi, que je travaille là-dedans. T'sais, je les ai vus, les exploit kits, je les ai vus, les mouvements latéraux, les ransomware. On est vraiment dans une autre approche, puis une approche que les vecteurs d'infection, puis ça, c'était le contenu de la conférence, là, c'est beaucoup de l'opportunisme, puis c'est beaucoup autour des thèmes reliés à l'ingénierie sociale et au désir d'avoir quelque chose qui coûterait de quoi normalement, mais gratuit. Dans la présentation, je parle d'une longue campagne qu'il y a eu sur Midjourney. Fait que c'était je veux faire du AI Generated Image avec Midjourney gratuit. Puis là, tu downloads un exécutable sur des sites un peu boboches. Puis ça te dit « désactive ton antivirus ». Tu sais, Midjourney, mettons, ceux qui suivent la création d'images par les AI, tu sais, Midjourney, on sait que c'est via un bot Discord. Là. C'est pas un truc qui fait du sens. Mais c'est encore mieux de cibler Midjourney. Parce que si tu ciblais, disons, Photoshop ou whatever, qui a une vraie utilisation légitime via un exécutable, ben, tu arriverais sur le vrai site. Tandis que là, si tu cherches Midjourney download, sachant que le vrai site n'offre même pas de download, ben là, ton SEO, tu sais, ta façon d'aller rejoindre des victimes potentielles est vraiment accélérée. Donc ça, c'est une grosse campagne. Sinon, tu sais, des cracks de logiciels, puis beaucoup de canaux de distribution via YouTube, avoir des Robux gratuits. Une des conclusions de la présentation, c'est de ne pas laisser son ordinateur de travail ou un ordinateur qui a moindrement des credentials importants sauvegardés dedans à des enfants qui vont peut-être de façon opportuniste vouloir avoir des Robux gratuits ou des trucs comme ça parce que, encore une fois, sans être administrateur, ils sont capables de faire du dommage.
Oui, ben c'est ce qui a changé quand tu parlais des différentes générations. Puis la génération où on est rendu d'exploit, c'est on n'est plus dans des efforts techniques très, très, très sophistiqués. La sophistication technique n'est quasi plus présente dans la façon d'approche. C'est vraiment du pragmatisme pur. Puis comme les utilisateurs ont tellement d'informations qui sont stockées là, on fait tellement tout ça, surtout depuis le confinement en plus, ça a dû multiplier encore plus tout ce que les gens font en numérique. Donc d'aller juste voler le profil numérique d'une personne doit être hyper payant. Pour ces criminels-là qui. Parce que s'ils le font, c'est nécessairement payant. Là. Quand ils le feront plus, ça veut dire que ce ne sera plus payant. Là. Donc, d'aller chercher tout ça, fait que c'est quand même assez épeurant de voir. Puis on n'est pas protégé contre ça non plus.
Ben, les antivirus vont catch up. Là. C'est généralement le lendemain ou très rapidement, il y a des protections. Puis là, dépendamment, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui suivent plus les groupes. Le modèle d'affaires des cybercriminels dans ce cas-ci, c'est t'as les gens qui fabriquent le builder, fait que donc le générateur de logiciels malveillants. Fait que là, fait que tu sais, eux, c'est des software engineers qui écrivent du code puis qui essayent de s'arranger pour que ce soit pas détecté facilement. Mais tous ceux qui l'opèrent, eux vont rajouter leur petite sauce. T'sais, par exemple, j'ai un builder, mais dans mon builder, je dis moi je veux infecter un TeamViewer, mettons. Bon, ben là, tu prends le vrai exécutable de TeamViewer, tu le mets dans le builder, puis là, tu peux choisir ton message d'erreur custom, tu sais. Fait que le fait que les distributeurs de ces logiciels malveillants-là aient autant d'options à travers le builder, ça l'explose le graphe des possibilités pour les compagnies d'antivirus. Tu sais, c'est pas un vertical qui opère tout, que tu as juste à détecter lui. C'est lui qui a créé un outil que tout le monde utilise pour infecter des machines. Puis là, eux récoltent, dans le fond, les Stealer Logs de leurs victimes. Puis ils les vendent souvent en volume. Mais des fois, les opérateurs, des builders, se font des backdoors et ont aussi les Stealer Logs de leurs clients. Tu sais, ce milieu-là, il y a tellement de backstabbing puis de d'entourloupettes entre les acteurs malveillants. On a aussi vu, tu sais, parce que... Fait que là, l'Information Stealer Malware, le résultat de ça, des Stealer-là, que c'est vendu sur Telegram, tu sais, en bulk, en volume. Puis là, faut que tu payes pour des subscriptions, mais tu peux, il y a aussi des channels où il y a des échantillons gratuits. Fait que là, t'as pas tout le zip ou t'as que une infection sur 100 pour voir si c'est intéressant ou pas. Puis c'est arrivé aussi qu'on a vu des Stealer Logs avec des PE dedans, des exécutables, pour infecter le monde qui essaie l'échantillon, ben, qui regarde l'échantillon gratuit. Fait que c'est encore une autre forme de d'acteurs malveillants qui se jouent des tours entre eux autres. Là, t'sais.
Ouais, ben les méchants n'ont aucune loyauté, là. Les voleurs n'ont aucune. Donc, ils sont prêts à voler n'importe qui. Puis c'est un peu étrange, puis ça change un peu sur le modèle des ransomware où il y avait une forme d'assurance que tu allais recevoir tes choses une fois que tu avais payé, justement, parce que le modèle d'affaires devait garantir que les gens retournaient l'information une fois payé, parce que si ça fonctionnait pas comme ça, les gens arrêtaient de payer. Mais là, dans un contexte où la victime en l'occurrence, finalement, une fois qu'elle s'est faite voler, elle n'est même plus dans l'équation, elle est disparue du paysage. Puis ces informations, sont rendues dans l'espace, revendues par des gens qui ne sont jamais pas fiables ensemble. C'est qu'ils veulent probablement aussi avoir un crack d'Adobe parce qu'eux autres aussi veulent économiser de l'argent puis se faire avoir et c'est un cycle.
Mm-hmm. Puis là, ben, tu sais, malheureusement, ces personnes-là que leur ordinateur personnel se fait avoir, ben, ils s'étaient logués sur le Outlook web du travail. Fait que là, il y a des credentials dans le browser qui restaient, tu sais, cachés dans le coin. Fait que c'est pour ça que ces menaces-là, même s'ils ont l'air très, très ciblés grand public, il y a quand même souvent des liens vers les réseaux d'entreprise, les réseaux organisationnels.
Mais ça, le vois-tu dans ben, tout le fait que tu vois des cookies M305 apparaître, tu vois apparaître toute cette. Ouais. Donc, si tu les vois, ça veut dire qu'ils ont volontairement allé les chercher parce qu'ils
font. Ils ramassent tout.
Ils ramassent tout. Ils regardent pas, ils ramassent tout. Fait que OK, bon, t'es foutu.
Fait que tu vois tout. Des cookies de Google Ads, il y en a. Tu sais, on en a des millions. Non, c'est ça. Ils ramassent tout. Tu sais, il n'y a aucune discrimination sur le contenu volé. Mais pour nos clients, là, l'impact, ben, c'est d'aller chercher leurs choses à travers toute la masse de données qu'on a. Donc, tu veux, dans le fond, si tu es un retailer, ben, tu veux empêcher qu'un account compromis soit servi pour faire une transaction qui va exiger un refund et que le stock va être perdu. T'sais. Fait que là, tu payes deux fois, tu as shippé le vrai stock, puis en plus, il faut que tu refundes l'original. Donc, tu sais, c'est des cas comme ça qu'on voit. Puis, tu sais, on voit, ben, au départ, c'est beaucoup protéger les identifiants corporatifs. Mais plus ça va, plus on voit des use cases de, dans le fond, tu sais, n'importe quel produit SaaS qui veut qu'il y ait le moins de friction possible pour ses utilisateurs va jamais demander de MFA, va jamais, tu sais, ou rarement, tu sais, le account recovery va être facile. Ben, tous ces comptes-là sont la proie de dans le fond, des cybercriminels. Tu sais, les Netflix, Disney+, tout ça, que tu sais, ce que tu veux, c'est le moins de friction possible pour ne pas créer de pression sur ton helpdesk, dans le fond, quand tu es une compagnie comme ça. Donc, c'est là que tu sais, il y a du ravage qui est fait dans les Info Stealer malware. Là. Puis là, ben, là, il y a de la revente de comptes, tu sais, il y a tout ça. Mais heureusement, les impacts ne sont pas si grands que ça, tu sais, dans ces cas-là, tu sais, pour les cas que je viens de donner. Mais tu sais, il y a aussi tu sais, tout le temps la personne qui me dit, mettons, ah, mais là, tu sais, s'il y a des informations bancaires là-dedans, c'est grave. Puis là, ben, moi, je te dirais, tu sais, je pense plus qu'il y a aucune banque canadienne qui n'a pas de MFA. Et mettons qu'on se concentre sur les cookies parce que l'Information Stealer Malware vole les cookies aussi. Il n'y a aucune grande banque canadienne qui invalide pas les sessions après quelques minutes, voire heures, sans interaction avec la page. Donc, tu sais, il ne faut pas non plus exagérer la menace. Là. Pour les banques, ça n'en est pas une. T'sais. C'est vraiment plus pour tous les autres produits web où les sessions ont une longue durée de vie, où la pression du modèle d'affaires va faire que tu ne vas pas invalider une session si l'IP source change. Il y a comme plein de facteurs comme ça à garder en tête. Moi, j'aime bien ça conseiller les clients sur justement clarifier la menace. Puis je trouve que d'avoir accès au log, ça te permet de voir qu'est-ce qu'il y a dedans puis de vraiment mieux comprendre les enjeux de cette menace-là. Une des affaires que j'ai fait dans la conférence, il a fallu que je convainque des gens à l'interne de la compagnie chez nous pour faire ça, c'est je donne des Stealer Logs aux gens qui étaient présents via un code QR. Puis on s'assure que les gens, on veut des étudiants corpo, on veut pas comme donner ça à des Gmail anonymes. Là. Puis les Stealer Logs que je partage, c'est on sait que c'est des threat actors. Donc, tu sais, je donne pas de Stealer Logs de victimes que je donne les informations personnelles. Là. C'est vraiment des gens qui ont démontré de la malveillance en ligne. Puis là, ben, eux, c'est comme too bad, t'avais juste à bien te comporter. Puis, fait que les exemples permettent, puis là, on password protect ça, puis j'ai checké qu'il n'y a pas de virus dedans, etc. Mais de pouvoir regarder ça, ça aide les gens à comprendre à quel point, de quoi ça a l'air une infection comme ça, parce que ça peut paraître assez abstrait. Mais dans les faits, c'est quand même un fichier zip avec plein de points TXT, là. C'est quand même accessible à la portée de tous d'aller te promener dedans. Tu sais, c'est pas comme de la rétro-ingénierie de logiciels malveillants que c'est quand même difficile. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant et que j'aime démocratiser, tu sais, à travers la présentation. Puis c'est quelque chose qui... Je savais pas ce serait quoi la demande. Puis là, tu vois, je l'ai donné en anglais à Shmoocon, puis je l'ai donné en français au Secure. Puis les deux fois, là, il y a eu beaucoup de monde intéressé par mettre les mains là-dessus pour voir c'est quoi. Puis d'avoir le autofill, tu sais, du browser, t'as toutes, là, tu sais, les adresses qui ont été tapées, les relations d'affaires, tu sais, la pharmacie, la banque, tu sais, plein d'affaires sur les victimes, là. C'est très
intéressant. Ça, c'est incroyable. Puis de toute façon, on doit avoir une partie des recherches dans Google aussi doit apparaître là-dedans. Il doit avoir des affaires qui sont assez farfelues. Toi, dans le fond, c'est un champ de recherche dans lequel tu vas creuser davantage. Qu'est-ce que tu vas justement chercher pour aller plus loin que juste de dire, bon, OK, toutes ces informations-là sont là?
Oui, bien là, dans la conférence que j'ai présentée, j'étais curieux de qu'est-ce qu'il y a d'autre que des credentials. Puis là, on a commencé à regarder le volet des password database. Donc, il y a des modules qui souvent sont appelés le File Grabber, que dans le fond, il va lister des fichiers intéressants dans le Document Folder puis sur le desktop, selon des types d'extensions qui ne sont pas lourdes. Donc, pas des ISO, pas des. Tu sais, c'est vraiment des points TXT. KBDX, qui est le KeePass Database Format, qui est un password manager open source populaire. Il y a les DocX, les PDF. Étonnamment, j'ai vu beaucoup de DocX de francophones. Puis, tu sais, des devoirs, des CV, des trucs comme ça, des trucs d'OBNL. Donc, le FileGrabber ramasse tous ces trucs-là sans grand discernement. Puis là, j'ai validé est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour essayer de craquer en mode offline les databases de password manager? Puis la réponse, c'est oui. Donc, il y a un tool dans John the Ripper qui va extraire juste le keying material puis les paramètres pour les bases de données de type KeePass. Donc, qui extrait ça. Puis après ça, tu peux mettre ça dans Hashcat ou dans John the Ripper pour essayer de faire une attaque offline. Puis là, si tu combines ça au fait que tu as volé toute la voûte de mots de passe du browser, ben, si tu fais une attaque offline avec du mangling agressif et que tu cèdes ça avec toute la database du browser, ça peut donner des taux de succès intéressants. Je n'ai pas essayé, mais c'est facile à imaginer que ça peut porter fruit. Sinon, il y a les extensions. Il y a beaucoup d'extensions de navigateurs qui sont ciblées. Puis là, là-dedans, j'ai fait des deep dives dans deux familles, là. Une qui est les générateurs TOTP. Donc, disons que ça ne te tente pas d'utiliser ton téléphone pour ton authentification à deux facteurs de type TOTP là, avec le code QR puis le code qui change à chaque 30 secondes parce que tu en as trop. Puis, ton téléphone il est trop loin ou tu aimes ça avoir tout ça dans ton ordi. Fait que là, tu installes une extension qui fait ça. Ben, j'ai confirmé que l'extension la plus populaire, dans le fond, un Steeler Log alpha, là, tu sais, exemple, va réussir à aller voler les secrets et on est capable de reproduire le secret du TOTP. Donc, c'est pas quelque chose qui est très populaire, mais tu sais, pour moi, comme chercheur ou comme gars de sécurité, c'était pas une conclusion surprenante, mais dans mon équipe, il y a eu, ben, dans l'équipe chez Flair de recherche, il y a eu plein de monde qui capotait, là, qui était comme « Oh my God, c'est dommage grave. » Puis tu sais, ils ont raison. Mais c'était clair que si tu étais capable de générer les secrets, si tu étais capable de générer la combinaison de 6 chiffres, sachant que TOTP est synchronisé sur l'horloge de la machine, ben il fallait que le secret soit stocké en clair dans l'extension. Puis si le secret est stocké dans l'extension, puis que le Steeler Log a le même niveau de privilège que le navigateur, ben c'était certain que ça allait être volé. Mais c'est quand même été un exercice très intéressant de le confirmer. Puis là, tu sais, quand tu pars de là puis que tu penses aux autres applications possibles, ben quand on parle de Bitcoin Wallet, ben tous les wallets Bitcoin qui sont directement dans le navigateur, qui ne sont pas protégés par un master passphrase, ils sont aussi vulnérables à ces attaques-là. Puis le Steeler Log moyen va cibler environ 80 extensions là, et plus. Puis ça, c'est... Tu sais, les extensions, ils ont comme un format commun, là, c'est une espèce de longue chaîne de lettres. Puis ils vont carrément juste directement coder en dur dans le logiciel malveillant. Il va voler tous les fichiers, que ce soit synchronisé ou pas, du navigateur. Fait que ça, toute cette recherche-là, ça a été super intéressant à faire, d'aller comme prouver techniquement que c'est ça qui se passe pour pouvoir vulgariser l'impact. Puis, je tiens à rassurer les gens aussi, tu sais, les gestionnaires de mots de passe cloud comme Bitwarden. Là, Bitwarden, c'est lui que j'ai le plus analysé parce que c'est lui qu'on utilise au bureau. C'est notre officiel du travail. Donc, vu que c'est dans le cloud, il y a un API qui jase avec le browser. Donc, les secrets ne sont pas en clair dans la configuration, mais il y a des logs. Mais dans les logs, les strings sensibles sont encryptés avec le HMAC format, avec un truc là, Ivy, HMAC, intégrité, tout là, d'une crypto béton moderne dans le message en JSON. Ça veut dire que pas uniquement que le password, les logins, les URL et les passwords sont chiffrés. Donc, Bitwarden, ils ont bien fait ça. Maintenant, est-ce qu'il existe un autre password manager où les gens ont décidé que c'est des logs de debug de développeurs puis il y a des secrets directement dedans? Je n'ai pas trouvé encore. Mais ça fait partie de mes prochaines étapes de recherche de me taper, dans le fond, là, le plus de fichiers volés possible. Puis vu qu'on en a des millions, ben c'est une aiguille d'une botte de foin. Là, je fouille puis je check qu'est-ce qu'il y a. C'est pas tout. Tu sais, dans ma présentation, je parle beaucoup de tout ce qui n'est pas des credentials, mais tu sais, à chaque fois, ça réduit la grosseur de la pointe de tarte. Tu sais, il n'y a pas tant que ça de password manager dans les affaires volées. C'est principalement des credentials puis des screenshots. Donc, c'est ça.
Mais c'est ça, mais en dehors de justement, là, tu en as mis quelque chose. En plus des creds dans la voûte et tout, qu'est-ce que tu vas retrouver comme élément supplémentaire? Ça peut être DocX, mais tu sais, là, puis des CV, des choses, mais tu vas sûrement trouver des choses qui sont plus croustillantes, si tu veux, au sens où plus dommageables pour les personnes où ça l'a fuité ou plus problématique en termes de choses. Tu sais, c'est l'exemple du fait qu'il ne faut pas que les enfants l'utilisent est un très bon, justement, parce que c'est un ordinateur de bureau, donc il y a des éléments plus sensibles associés à ça qui viennent être récupérés. Donc, des dockings qui sont probablement j'espère pas des secrets industriels, mais c'est des choses qui sont quand même plus croustillantes qu'un CV.
Oui, je sais pas, parce que faut aussi se rendre compte qu'ils ont un enjeu de d'efficience. T'sais, ils veulent pas. T'sais, disons que tu tombes sur le PC d'un architecte. Ben là, t'sais, si tu voles les documents, les dessins cadres, les dessins techniques, t'sais, rapidement, tu pourrais blow up les limites d'API de Telegram, puis t'sais, mettre une pression sur les C2, puis tout ça. Fait que, c'est vraiment une bonne question de recherche. Là, tu me donnes envie d'aller chercher par taille, puis de trouver nos plus gros ont l'air de quoi, puis qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pour l'instant, moi, je te dirais que j'ai jamais vu plus que 20 documents. C'est peut-être un échantillon aléatoire, t'sais, puis. Moi, la seule façon que je pourrais répondre, c'est soit faudrait que je trouve des Steeler logs que le code source est disponible, ce qui est le cas de certains poches, ou que je fasse la rétro-ingénierie de ça. Puis ça, c'est du crimeware state of the art. Là. Fait que, tu sais, les efforts de rétro-ingénierie sont significatifs. Fait que c'est pour ça que ça, c'est une approche à date que j'essaie d'éviter. Mais c'est ça. Moi, d'après moi, pour des enjeux de taille des fichiers volés, il va y avoir une sélection qui va être faite.
Ça veut-tu dire qu'il y a une espèce de trigger en termes de taille ou un trigger en termes de temps? Parce que tu dis, il s'auto-détruit, donc il n'y a pas de persistance, parce qu'on est vraiment dans un contexte de sans persistance. C'est vraiment un univers complètement différent. Avant, on cherchait la persistance pour aller plus loin. Maintenant, zéro persistance, on vole tout puis on s'en va. Puis dans un délai très court, est-ce que tu as besoin d'une forme de soit de délai ou de taille maximale du Steeler log?
Je sais pas. Faudrait, pour vrai, c'est ça. Les réponses, pour avoir des vraies réponses, il faudrait aller dans la rétro-ingénierie, puis j'ai pas fait ça. Mais c'est une bonne question, c'est bon. Puis tu sais, aussi de regarder dans nos données si on en a des gros. C'est quoi? Non, OK. Je sais que ceux qui travaillent sur la pipeline d'ingestion, là, parce que tu sais, nous, il faut qu'on les traite. Si tu veux retrouver des informations dedans, il faut qu'on gère toutes les sortes de Steeler logs, puis qu'on catalogue, puis qu'on rentre ça dans nos bases de données. Je sais que ceux qui font ce travail-là, ils ont fait face à des Steeler logs qui contiennent des Steeler logs. Fait que là, on assume, notre théorie, là, notre hypothèse, c'est que c'est des développeurs de Information Steeler Malware qui avaient plein de Information Steeler Malware, de Steeler logs dézippés sur leur desktop. Fait que là, ça fait des logs dans des logs, puis là, ça, c'est des cas d'exception qu'il a fallu qu'on gère. Puis donc, il y en a qui sont gros parce que je sais qu'on a déjà fait sauter genre des process qui manquaient de mémoire parce qu'il n'était plus capable de traiter ce qu'on collectait. Fait que donc, peut-être qu'il n'y a pas de limite nécessairement, puis c'est plus. Puis c'est peut-être aussi, tu sais, ça, nous, on les pipeline pas. Donc, moi, je les vois pas, tu comprends? T'sais, moi, j'étais au bout de la chaîne de toute notre merveilleuse team d'ingénierie qui fait tout le travail difficile. Donc, ça se pourrait que mes recherches par le passé aient été biaisées, puis que là, on a réglé ces bugs-là, puis que là, plus ça va, plus qu'on a des gros Steeler-là qui vont rentrer dans nos données. Il y a plein de on a plein. Là, on commence à faire beaucoup de data science, là, puis tu sais, des questions de recherche genre. C'est cool, on en a 60 millions. On doit être rendu à 70-75 millions de Steeler logs. Ça représente combien de credentials? Ou combien de credentials sur Google? Combien de credentials sur Office 365? T'sais, toutes ces questions-là, on n'a pas répondu encore parce qu'il faut écrire le code pour queryer les databases. Puis c'est des databases en forme document. Fait que c'est des jobs genre. Du painless script, là, puis tout ça. Fait qu'il faut travailler fort, là. Fait que c'est ça. Mais ça s'en vient.
Mais je trouve ça drôle, un painless script, mais il faut travailler fort.
Mais eux pensent que c'est painless, mais je te le dis que c'est. Ouais.
C'est un peu absurde. Puis de là, dans tes recherches, puis dans tout ce que tu as trouvé, puis qu'est-ce qui te drive justement à regarder ça? Qu'est-ce qui sont tes éléments? Tu as nommé plusieurs là, qui sont jusqu'à présent, mais tu as sûrement d'autres idées qui. Puis là, je vais dans ça, mais d'autres. Mais qu'est-ce qui va t'amener là-dedans à fouiller davantage, à Quel est le prochain objectif? Qu'est-ce qui te rend curieux de ces informations-là?
Ben moi, je repars de la menace, mettons. Tu sais, comment les compagnies se font compromettre dans la modernité? C'est dans un tiers des breaches, il y a des creds de voler. Donc, tu sais, ça veut dire que ce crimeware-là qui est comme un peu dénigré, tu sais, tout le monde est sur le ransomware ou les exploits, tu sais, les CVE d'appliance, puis tout ça. Je suis d'accord, il faut absolument regarder ça, puis il faut suivre ça, puis c'est une grosse menace. Mais ça, tu sais, les fixes logiciels, c'est de la politique, le gouvernement devrait exiger du meilleur code dans les appliances exposées sur Internet. C'est pas moi qui travaille chez Flare qui surveille le cybercrime qui va pouvoir faire ça. Mais donc, dans moi, ce que j'ai contrôle ou accès à, cette menace-là du Information Stealer Malware qu'on collecte à vitesse effrénée puis qu'il n'y a aucun signe de ralentissement, qui est mal couvert, tu sais, ça l'est de plus en plus. Ça a quand même été longtemps mal couvert par les médias ou, tu sais, considéré comme du petit malware de bas de gamme. Reste que c'est, il y a un lien avec ces données-là sont beaucoup plus susceptibles de mener à des brèches que les combo listes, tu sais, qui sont vieilles, là, le stock qu'on trouve sur Avibe and Pwn ou les agrégations de listes de credentials. La plupart du temps, on trouve des vieux credentials qu'on avait déjà vus, qu'on a déjà mitigés. Tandis que là, souvent, ces credentials-là sont frais, sont très différents. Pour moi, les possibilités de protéger les entreprises puis les individus est plus claire, plus présente. Fait que c'est comme la motivation est là. Fait que là, à partir de là, ben qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut regarder? Ben là, c'est d'essayer de voir, OK, les autres font quoi? Puis moi, comment je peux faire plus un, tu sais, aller une petite affaire plus loin. Tu sais, il y a des super bons blogs de gens qui couvrent la rétro-ingénierie des Information Stealer Malware. Tu sais, I7, il y en a quelques-uns de bons. I7 fait tout le temps du bon stock, là. Je veux juste, si jamais il y a quelqu'un d'I7 qui écoute, ce que je voulais dire, c'est faites toujours du bon stock, mais vous avez juste une petite couverture sur les Information Stealer Malware. Elastic, anciennement Endgame, là, ils ont fait des bons trucs sur les Information Stealer Malware, mais c'est toujours du point de vue de la rétro-ingénierie, puis ça finit avec des IOC, mais ces IOC-là sont déjà plus bons, tu sais, à cause du système de builder. Fait que là, nous, en allant vraiment dans l'écosystème cybercriminel, puis d'aller, au lieu On est dans le mode assume breached, puis t'as été breaché, mais maintenant, il faut que toi, t'aies plus vite à révoquer ces creds-là que les cybercriminals à les exploiter. Puis on est chanceux. Tu sais, là, en ce moment, on est chanceux parce que eux, la plupart des skids, ben c'est des skids là, qui font ça, des scripts qui disent, ils sont plus intéressés par du Netflix, puis tu sais, des comptes de streaming en ligne. Fait que ça, c'est ça, ils sont outillés pour tester ça rapidement. Mais, tu sais, des creds plus compliqués, corpo, ils sont moins prêts. Donc, si nous, on surveille, puis aussi, il y a du volume. Tu sais, fait qu'eux aussi, c'est un peu, nous, on a le problème de l'aiguille dans la botte de foin, mais de leur bord aussi, tu sais, ils regardent les mêmes résultats que nous. Donc, si on est capable d'aller plus vite qu'eux, puis ça donne bien, on gagne notre vie à faire ça. On met 40 heures, semaine et plus à faire ça. Donc, si on surveille la bonne source, on est capable de mitiger ces credentials-là avant les autres. Puis, ça devient comme du Attack Surface Management, c'est-à-dire, ce que tu veux, c'est trouver le creds que tu n'aurais jamais trouvé sinon, tu sais. Le box.com, le Dropbox qui est vieux, qui n'a pas d'MFA, tu sais, le Office 365, mais qui est un service account, fait que tu as désactivé l'MFA. Tu sais, c'est de ratisser large. Fait que là, ben moi, tu sais, dans l'optique de oui, je suis un chercheur puis je donne des conférences, mais je veux aussi faire de quoi d'utile puis j'aime ça faire un petit peu de code. Ben tout ce qui est d'automatiser les tests de credentials, ça m'intéresse. Tu sais, j'aime ça que on s'intègre dans les organisations, puis on est capable de faire automatiquement d'aller tester si ces requests-là sont-ils bons, oui, non. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai donné des scripts PowerShell pendant ma conférence, parce que c'est là-dessus que je travaille. Puis là, je suis chanceux, tu sais, l'équipe d'ingénierie et elle l'intègre dans la plateforme. Puis c'est quelque chose qu'on est en train de faire en test avec des clients. Tu sais, les risques sont liés j'essaie de le dire en français, je vais le dire en anglais, ça va sortir mieux, mais au account lockout. On veut empêcher les comptes de se faire barrer par les mécanismes de sécurité parce qu'on va avoir fait trop de tentatives. Fait qu'il faut comme trouver les bons paramètres, puis ça prend du temps, puis c'est pas toutes les organisations qui ont le même appétit. Puis là, ça l'implique de fitter aussi. Il ne faut pas que le SOC se mette à capoter. Tu sais, si jamais, tout d'un coup, Flair test tes credentials pour toi puis te donne un rapport, il ne faut pas que qu'il y ait des incidents qui sont levés comme quoi on est en train de se... Il y a une campagne de brute force qui se passe. Fait que là, pour l'instant, on est vraiment à la pièce avec des partenaires plus matures qui comprennent les enjeux puis à tester ces trucs-là.
À travers ça, tu parles de credentials, mais les cookies sont très importants dans un certain nombre de choses. Tu parlais tantôt de systèmes qui ne demandent pas la réauthentification régulièrement. Facebook étant probablement un des pires associés, on doit se réauthentifier Facebook. Pendant que la moitié du monde ne se rappelle plus puis doit faire un reset de leur mot de passe parce qu'ils ne s'en rappellent juste plus parce qu'ils l'ont saisi il y a 6 ans puis ils ne savent pas ce qui s'est passé après. Ces cookies-là doivent être intéressants aussi. Est-ce que tu sens qu'il y a une utilisation ou des recherches au-delà du fait que de toute façon, ils ramassent tout, fait que tu vois le même dégât que tout le monde. Cet aspect-là semble-tu avoir un appétit? Puis là, ça va, la question connexe, c'est M365 puis Google Workspace qui sont les cookies qui probablement qui doivent avoir le plus de valeur parce que là, tu peux rentrer littéralement sur le compte de quelqu'un.
Mm-hmm. Oui, non, tout à fait. Fait que donc, les cybercriminels, ce qu'ils utilisent, eux, pour vérifier les comptes, ils appellent ça des checkers. Ça, c'est comme leur lingo de cybercriminels. Fait que si vous allez en ce moment dans Google et vous essayez de trouver des checkers, faites attention, il y en a qui sont infectés. Donc, si vous essayez d'utiliser un checker gratis, ça se peut que vous infectez votre machine.
Faites-le à la maison, on est des professionnels.
Ouais, non, mais vous faites-le dans une machine virtuelle dédiée, qui a pas de credentials dedans. Mais donc, fait que là, les checkers sont tellement convivial que tu décides, je rentre le Stealer Log, le zip au complet, je choisis, je veux tester Amazon, puis là, tu pèses sur le piton, puis là, tu donnes une liste de proxys, ça va passer par les proxys, puis à la fin, ça va te donner les comptes qui ont fonctionné. Fait que tu sais, il y a vraiment du stuff clé en main de ce niveau-là qui existe. Donc ça, ce côté-là, on sait que ça se fait, que ça se passe. Les compagnies, ils ont de l'appétit pour ça. Les compagnies plus sophistiquées, plus comme qui ont des grosses équipes d'ingénierie, dans le fond, là, tu sais. Parce qu'ils voient, il faut quand même que tu intègres ça dans ta stack d'authentification ou que tu fasses un ménage dans tes sessions. Tu sais, dans les deux cas, ça implique des données assez sensibles, fait que ça prend des développeurs qui sont capables de dealer avec là où les données sont situées, que ce soit au moment d'authentification ou en révocation asynchrone, si on veut. Mais donc, nous, on a sorti un API, là je me permets une petite plug vu que c'est relié à la question, mais qui s'appelle ASTP, Account Session Takeover Protection, que c'est un API qui te donne les sessions les plus fresh, puis à toi de te retourner de bord, puis de valider, puis de révoquer tes sessions. Ça, c'est quelque chose qu'on vend dans le fond dans notre offering. Puis, on pense qu'il y a de l'appétit, puis que plus tu es une compagnie grand public, tu sais, consumer, plus que tu as une pression du marché pour jamais révoquer les sessions. Donc, t'as peut-être l'obligation d'avoir à dealer avec ce genre d'affaires-là, mais c'est compliqué, c'est long. Il y a aussi beaucoup de compagnies qui pensent qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Tu sais, Microsoft, en ce moment, quand t'es entre ID, à partir de E3, je pense, ou en tout cas, là, le licensing de Microsoft, désolé Microsoft, tu nous aides pas là, à répondre à mieux parler de tes produits, là, mais Il y a un niveau de licence d'Entra ID où tu es capable de dire « Je veux leverager les leaks. »
Je vais rendre ça plus compliqué, c'est P2.
C'est P2, c'est pour Entra ID directement. OK, c'est P2, parfait.
C'est l'Entra ID P2 qui est inclus
dans E3 ou E5.
Dans E5, je pense. E5, ouais. Mais tu peux l'avoir en option dans E3. En tout cas, bref, c'est un foutoir, mais ça...
Mais
bref.
Donc, ça, on a des clients qui utilisent ça et qui nous ont dit que c'est bon, mais c'est pas aussi fresh que votre stock. T'sais. Dans le sens, on est spécialisé là-dedans, mais Microsoft ne va pas se dire on va acheter Flare, ils vont se dire on va le faire nous-mêmes, ce genre de grosse boîte-là. Je pense que on a eu un petit peu de ça qui se passe en ce moment avec notre relation avec les géants, si on veut, là. Mais ils le font, puis tant mieux. Tu sais, puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont le faire bien puis que ça va devenir un truc moins nécessaire.
Mais ils
ne
peuvent pas le faire aussi bien qu'une compagnie spécialisée. Puis ça demeure toujours le best of breed versus le généraliste. Puis le généraliste, ben, c'est un généraliste. Hein.
Teams versus Slack.
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comment ils choisissent à investir leur argent. Tu sais, oui, ils vont en investir un peu là-dedans, mais il faut qu'ils investissent dans améliorer Teams. Il faut qu'ils investissent maintenant dans Copilot. Après ça devient une pointe de tarte qui est finalement, par rapport à l'argent que vous investissez, on prend l'exemple de Flamme, mais il y en a plein d'autres, ça devient minuscule en termes de capacité puis d'intention de vouloir le faire. Là.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Ça couvre tellement large une compagnie comme ça que ça... C'est ça. Nous, on a le laser sharp focus là-dessus, puis...
Mais ça veut aussi dire que vous êtes capable de... Vous avez accès... des choses comme le freshness, là, la fraîcheur de ce que vous avez est très élevée. Donc, vous êtes très proche des Steelers-logs qui sont fraîchement récupérés des postes. Donc, incidemment, vous rentrez dans votre cycle et vous êtes capable d'aider vos clients à quelques minutes une fois que l'information est disponible. Plus temps de traitement de latence que... Parce que alors, c'est pas parce que vous l'avez vu que ça l'a passé le pipeline, qui doit être quand même assez efficace, mais ça doit quand même...
Ouais, c'est
quelques non, minutes totales entre le moment où il est pris et ça arrive dans les choses du client.
Non, non, il y a une certaine complexité à tout traiter, puis à prioriser, puis tout ça. Les breaches sont rendus, c'est rendu tellement gros. Là. Là, on a eu un événement, je te donne un exemple niaiseux, là, mais on a un événement de ransomware récent que là, il faut qu'on analyse, qu'on download. C'est 3,6 terabytes à downloader via Tor. Fait que c'est long, là. Tu ris pas dans le micro, mais Nicolas.
Non, mais je ris, mais c'est comme downloader un film sur Madame
56K.
56K, c'est comme, c'est genre, tu veux juste mourir, là. C'est dans un film 4K sur 56K, tu vas là, dans 3 semaines, il va arriver, là.
Ouais, puis les clients, ils, des fois, ils comprennent pas que c'est long, là. C'est ça, là, quand on est capable, on essaie d'aller vers ce qui a le plus de valeur le plus vite possible, puis il y a comme plein de nuances. Puis aussi, tu sais, là, combien de jours ça va être up avant que ça se fasse takedown, tu sais, fait que il y a vraiment une espèce de course, une course à... c'est ça, avoir les données le plus vite possible, puis on se fait beaucoup là, demander ce genre de choses-là. Constamment.
On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des aspects des Steeler Log ou Info Steeler qu'on n'a pas couvert, que tu aimerais couvrir en terminant?
Moi, je. Là, ouais, j'ai pas. Tu sais, ce que je trouve dur, c'est les. Tu sais, il y a des étapes que j'ai envie de confirmer que je peux faire de façon éthique, mais. T'sais, après ça, il y a les affaires, il y a des trucs gris que je suis comme « Ah, mais ça serait cool de... » Je te donne un exemple bien précis. Tu sais, là, les logs de Bitwarden, je sais qu'ils sont encryptés avec leur façon. Tu sais, j'ai checké le code source et tout de parce que Bitwarden, c'est open source, leur client. Si moi, dans une VM, j'installe l'extension puis je me fais un trial cloud, puis là, je sais le master password que j'utilise. Là, je vais être capable de confirmer, OK, les strings sont encryptés avec le master password. Donc, techniquement, si tu sais, ça devient un offline attack, ce qui est pire qu'un cloud attack que tu peux comme bloquer, rate limité, toutes sortes d'affaires. Bon, J'aimerais ça confirmer ça, mais c'est parce qu'après, le découlement de l'utilisation de ça, c'est que du bad stuff. Je pourrais pas craquer les... Ben, ou va falloir embarquer dans les négociations clients complexes. Genre dire au client, check. Si tu nous donnes la permission, on va essayer de craquer tes trucs, puis si on les craque, on te les donne. Parce que moi, mon concern, pourquoi je veux les craquer, c'est parce que je le sais que les cybercriminels, c'est là qu'ils vont s'en aller. C'est l'évolution naturelle. Puis, si eux le font, ils vont réussir. S'ils réussissent, ils breach. S'ils breach, c'est la fin du monde. T'sais, c'est ransomware incident, des méga leaks, des extortion attacks. Je sais que si je réussis seulement qu'à prouver que ça fonctionne en théorie, ça n'aura pas l'impact que si je dis sur 70 millions, j'en ai craqué en utilisant les mots de passe locaux dans un cracking mechanism rig, j'ai réussi à craquer la vraie voûte. Puis là, tu es capable de faire peur au monde. Mais j'ai des enjeux éthiques puis des enjeux aussi écologiques. Là, on va-tu gaspiller de la chaleur à ce point-là à craquer ça? Ça vaut-tu la peine? Fait que là, c'est ça. Je suis comme un peu à la croisée des chemins pour ça. Sinon, tout ce qui est Bitcoin Wallet, tout ça, là, c'est plus comme un manque de connaissances. J'aimerais ça pouvoir comme bien communiquer l'impact. J'aimerais ça attirer l'intérêt aussi de ces compagnies-là à dire « Oh my God, faut qu'on fasse quelque chose. » Mais en ce moment, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont bons en cybersécurité. Ils ont comme une petite arrogance, là, les crypto bros, là, sans no offense. Ça aussi, c'est difficile. C'est des trucs que c'est pas clair l'impact. Puis, un autre truc que une collègue à moi, Estelle, travaille dessus, puis on est dans le fond, elle a fait beaucoup de progrès, puis moi, je l'épaule dans cette recherche-là, c'est l'analyse des screenshots, mais d'amener ça vers le IOC. Fait que les Stealer Logs frais d'infection récents, on analyse les screenshots du moment d'infection, on trouve c'est quoi le vecteur d'infection. S'il y a des URL ou s'il y a des fichiers qu'on est capable de savoir c'est quoi, on le download, on le hash, puis on fait des IOC genre en temps réel. Puis là, si on réussit à faire ça, comment on se compare avec l'industrie de l'antivirus? Ou on devrait-tu aller cogner la porte à YouTube direct puis dire « Hey, regarde, là, on a ce pipeline-là, ça marche. Toi, combien de temps ça va te prendre de bâtir ça? Parce qu'en ce moment, tu fais du dommage. » Fait que il y a comme plein de trucs. Il y a tout le temps plein d'affaires à faire.
Mais il y a plein de choses de fun. Fait que ça va donner l'occasion. Un, tu vas pour revenir au CQ pour présenter l'avancée de tes recherches l'an prochain. Puis naturellement revenir sur le podcast pour partager l'évolution de ces recherches-là. Merci énormément.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.